Tout ce qui touche l'esprit, c'est un ballon d'oxygène. Ça m'a fait avoir encore plus soif de découverte. J'ai pu vivre des choses que je n'aurais jamais vécues en tant que bienvoyante.
Bienvenue. Vous écoutez Voix Enchantée, un podcast de la ville de Saint-Sébastien-sur-Loire. Pour les 20 ans de la loi pour l'égalité des droits et des chances des personnes handicapées, nous vous invitons à écouter le témoignage de 5 habitants directement concernés. Mobilité, culture, emploi, sport, école. En parlant d'eux, ils dessinent, en creux, ce que cela signifie de vivre ici.
Je suis Martine Nénaud-Paquereau. Je suis dans mon appartement face à la médiathèque depuis 4 ans maintenant et à Saint-Sébastien-sur-Loire depuis fin 2016. J'habite intentionnellement tout près de la place Cambronne puisque c'est central. Ça me permet de rester autonome dans ma déficience visuelle qui progresse de mois en mois, victime des lasers de début des années 90. Il s'agit d'un handicap visuel. J'ai progressivement mis le pied dans la grande famille des aveugles. Je suis classée en cécité pratique, c'est-à-dire que je suis absolument incapable de m'orienter toute seule. J'ai un degré de champ visuel, à peine maintenant, et surtout brouillée par un épais brouillard. Ce sont les cicatrices de laser d'il y a plus de 30 ans. Et ça s'est réveillé 30 ans plus tard. Faisant de moi une déficiente visuelle de plus en plus profonde et je suis maintenant considérée comme aveugle. J'étais justement hier avec une connaissance sur l'île Forget. J'avais parmi les pieds à la station Nuage depuis bien longtemps et il est certain que ce n'est pas un lieu très accessible. Mais on en a déjà parlé en commission d'accessibilité dont je fais partie depuis 2 ans. Bientôt 3, je crois, avec la casquette AVH. C'est l'association pour les déficients visuels de Nantes, association Valentin Aoui. Alors, ce que je constate quand même, c'est que progressivement, les mentalités évoluent. Saint-Sébastien a toujours été et reste quand même une ville attachée au pouvoir des gens qu'on entend moins habituellement. Il y a un conseil des sages, il y a un conseil des enfants, il y a un conseil handi-citoyen dont je suis. Donc, on peut dire que Saint-Sébastien fait quand même, a toujours fait des efforts pour faire entendre ce qu'on n'entend pas habituellement. On a la chance d'être en France, d'avoir des moyens matériels de pallier le handicap. Donc il y a des imperfections, il y a quelques amorces de bonne volonté, mais la mise en œuvre, elle n'est pas toujours rapide. Enfin, ça prend du temps. Du temps et de l'argent. Donc si j'étais élue, je dirais à l'équipe technique, mettez-moi un coup de marquage horizontal pour que les gens voient bien où se trouve la rampe d'accès à la mairie, par exemple. Pour les portes vitrées, mettre des choses contrastées pour que les gens voient bien où est l'entrée. Ça pourrait être signalé visuellement pour les déficients visuels, quoi. Ou de façon sonore pour ceux qui sont complètement aveugles. Dans le monde du handicap, il y a quand même 2 catégories de personnes. Il y a celles qui sont nées handicapées et celles qui ont, au fil du temps, qui le deviennent. C'est mon cas, je suis née bien-voyante, sans lunettes, 10-10, etc., etc. Et quand je discute avec des aveugles de naissance, ils me disent « Moi, tu sais, si on me redonnait la vue, je ne sais même pas si je la voudrais. Je me suis construit sans la vision. » C'est un tout autre problème pour les gens qui deviennent handicapés visuels, puisque c'est de ça dont on parle là. Dans mon cas, c'est dur à vivre parce que on élabore des stratégies de compensation au fil du temps et on s'accroche à ce qui nous reste, qui fonctionne bien, quoi. Et puis à un moment donné, on est acculé. Ça, on peut plus le faire toute seule, quoi. Là, il va falloir voir ça autrement. Et donc, quand on devient handicapé, je constate que ça m'a fait perdre de la confiance en moi. même si c'est mon tempérament au départ d'être un peu une battante, mais inévitablement, le fait de devoir demander de l'aide pour réaliser certaines tâches, ça me mine, j'en fais des cauchemars, quoi. C'est pas facile à vivre. Alors je reste optimiste, je suis plutôt d'un naturel joyeux, quoi, mais c'est pas facile au quotidien. Je suis pas assez dans l'acceptation. Ça ne peut pas s'accepter, ça. Mais c'est comment vivre avec ça et comment se reconstruire en tant qu'une, peut-être une autre personne, quoi, qui a besoin de l'autre. Si l'on parle de culture, j'ai toujours eu l'esprit très curieux. Donc là, je fais, par exemple, depuis que je suis arrivée, je fais partie du club de questions pour un champion à Saint-Sébastien. Et puis, dès que j'ai l'occasion d'aller au musée d'art à Nantes, il y a aussi le Stéréolux. Donc oui, la culture, heureusement qu'elle est là, quoi. Enfin, la culture avec un grand C, quoi. Enfin bon, ça m'a toujours attiré, le visuel, dans mon malheur. J'ai besoin d'en avoir plein les yeux, quoi. Et la vie sans la vue, je ne l'avais pas imaginée. Je fais mes premiers pas dans la découverte tactile. Il y a par exemple la VH qui fait ça, la CLISA aussi, qui organise des sorties avec des chargés d'accessibilité dans les musées respectifs, tels que, je vous disais, le musée d'art de Nantes, le muséum d'histoire naturelle. Et donc, il y a des chargés d'accessibilité qui, au cinématographe, aussi au cinéma. Ah oui, je fais partie du panel national d'audiodescription. C'est la Confédération française de promotion sociale des aveugles et amblyopes, CFPSAA, et nous avons un panel d'audiodescription. Donc j'ai beaucoup bataillé pour qu'à Saint-Sébastien, il y ait l'audiodescription. Et donc ils sont équipés avec une application qu'il faut télécharger sur son téléphone, c'est Audio Everywhere. Ça n'est pas 100% compensatoire. Il reste une frustration permanente de ne pas pouvoir voir, de ses yeux voir, la couleur qui est décrite dans les blancs du film. En fait, c'est le film qui se déroule. Et dans les blancs, quand il n'y a pas de dialogue, l'audiodescripteur vous décrit ce qu'il y a ou l'attitude de la personne. Il faut pas qu'il trahisse l'intention du metteur en scène. Donc ça doit être neutre. Ça compense partiellement, j'imagine, ce qui est décrit. Mais ça reste de l'imaginaire. Mais je suis très très contente de pouvoir continuer d'aller au cinéma avec la possibilité de voir par les mots, quoi. La culture, c'est évident, ça l'a toujours été, peut-être que ça l'est devenu encore plus. Tout ce qui touche l'esprit, c'est un ballon d'oxygène. Je lis aussi beaucoup, je fais beaucoup d'audio-lecture. Je ne peux plus passer du temps à faire de la poterie ou de la cuisine. Tout ce temps-là, il est investi dans des manifestations culturelles.
À ce moment du récit, prenons une parenthèse pour découvrir un service mis en place par la ville de Saint-Sébastien-sur-Loire. Un dispositif en lien direct avec ce qui vient d'être partagé. Parce que derrière chaque mesure, il y a une histoire, un besoin, une vie.
Alice Quérin, maire adjointe en charge de la culture à Saint-Sébastien-sur-Loire. Pour les personnes en situation de handicap, on a une culture ambitieuse. Je pense surtout à l'école de musique. Nous avons une référente, Marion Fortune-Julien, qui voit les familles et qui voit comment les élèves peuvent s'intégrer le mieux possible aux autres élèves. Les professeurs, le personnel administratif sont tous formés pour recevoir le public en situation de handicap. Si vous êtes parent d'enfants en situation de handicap, il suffit de demander un rendez-vous à Marion Fortune-Julien, la référente, qui verra avec les parents comment accompagner au mieux l'enfant. En sachant que c'est particulier à Saint-Sébastien-sur-Loire, les tarifs sont préférentiels puisque les personnes en situation de handicap ont le tarif sébastienais même quand ils sont hors commune. Et après, Marion va aider parce que le but est que l'enfant ne soit pas seul mais accompagné d'enfants ordinaires, un enfant extraordinaire avec des enfants ordinaires et pouvoir faire de la vraie musique en groupe. Il n'y a surtout pas de cours particulier. Le but est vraiment que l'enfant puisse vivre dans un groupe et faire de la musique en groupe, donc s'ils sont à deux, trois, voire plus, selon les professeurs et selon les instruments qu'ils peuvent faire. Dans l'école de musique, quand vous êtes en situation de handicap, vous pouvez quasiment faire tout comme les autres. Peu importe l'instrument, on va apprendre à en faire différemment, à en faire autrement. C'est pour ça qu'il est important d'abord de voir notre référente avec les parents pour mieux aller vers l'envie de l'enfant. Si j'avais un message à faire passer aux parents qui ont des enfants en situation de handicap, c'est venez vraiment à l'école de musique, venez nous voir. C'est souvent une bouffée d'oxygène et pour les enfants et pour les parents. Ça aide énormément, les enfants ont beaucoup de joie à venir et nous on a beaucoup de plaisir à les recevoir. Je vous propose de redonner maintenant la parole à Martine et qu'elle conclue son témoignage.
Quand on se retrouve en situation de handicap, je constate, et tout le monde, je pense, sera d'accord avec moi, que le regard de l'autre devient différent. J'ai appris à utiliser la canne en 2012, donc ça fait 12, ça va faire 13 ans en fin d'année. Et quand je suis sortie dans la rue avec ma canne blanche, j'ai passé 2 mois à Paris, j'ai senti les regards. Et donc, il y a une sorte de gêne des gens. C'est pas de l'indélicatesse, enfin au bout du compte ça l'est, c'est très indélicat, mais c'est pas de la mauvaise volonté, ça les met mal à l'aise, ils savent pas comment nous aborder. Mais qu'on nous aborde comme quand on était avant, comme quand j'étais avant sans la canne quoi. Le regard de l'autre, c'est soit de l'admiration, soit de la compassion. Pour moi, c'est compliqué. Là, en bas de ma résidence, quand on m'ouvre la porte, je dis non merci, je suis tellement habituée. Eh ben, c'est au moment où on veut m'ouvrir la porte que je me cogne dedans. Si j'avais un message à faire passer aux Sébastianais pour qu'on vive les uns à côté des autres sans se regarder comme une bête curieuse ou quoi, eh ben, je dirais n'ayons pas peur de l'autre et allons vers l'autre. Ça ne veut pas dire non plus qu'il faut être sur l'autre en permanence. L'autre qui aurait une situation de handicap, même un handicap invisible, il ne faut pas non plus lui imposer une aide dont il n'a peut-être pas besoin. Il faut s'adresser à l'autre, en situation de handicap ou non, comme on aimerait qu'on s'adresse à soi-même. Enfin, oui, apporter son aide à l'autre sans l'imposer, le curseur est difficile à placer parfois. Effectivement, il ne faut pas que ce soit trop ni trop peu. C'est toute une question de savoir-faire et donc inévitablement de savoir-être. Donc faisons avec l'autre qui semble avoir besoin d'aide ce que vous aimeriez qu'on fasse avec vous, quoi. Soyons pas trop surprotecteurs, quoi. Il faut oser demander. Avez-vous besoin d'aide ? Et ça, non, ne vous inquiétez pas. Là, ça va rester courtois. On peut pas vivre seul, on peut pas être ermite. On vit dans une société et on a la chance d'être en France, d'être à Saint-Sébastien, où on peut quand même bénéficier d'aide, même si il y a encore beaucoup de choses à faire. Quand on perd la vue ou qu'on acquiert un handicap comme ça au cours de l'existence, les aléas de la vie, quoi, les accidents de la vie, y a effectivement le risque de se renfermer sur soi-même. D'ailleurs, beaucoup de personnes en situation de handicap parlent d'isolement. Parce que si vous n'êtes pas capable vous-même d'aller vers l'autre, l'autre, il a souvent du mal à venir vers vous. Donc vous êtes toujours en situation de demande. J'ai par exemple pas mal de connaissances qui me disent « Oui, t'hésites pas, tu demandes si t'as besoin. Demander. C'est sympa aussi de temps en temps de dire « Tiens, je vais faire des courses et as-tu besoin de quelque chose ?» Changer un peu le sens de la relation, quoi. Donc oui, le handicap peut mener à l'isolement et au renfermement sur soi-même, c'est bien évident. Si vous n'avez pas la chance d'être né avec un tempérament qui a le contact facile, qui va facilement vers l'autre, ça peut être très difficile, j'en connais, qui souffrent de l'isolement. Je suis passée au-dessus de la colère, mais je ne suis pas encore dans l'acceptation, parce que ça ne s'accepte pas, c'est un mot que je déteste. Ce n'est pas de la colère, mais un état de rébellion plutôt. Mais pour toutes les choses de la vie, tout ce qui est la justice, J'ai toujours été un peu comme ça, et peut-être que ça s'est accentué en perdant la vue, certainement, ça j'en conviens. Le handicap peut être un tremplin vers autre chose. Moi, je me rends compte que ça m'a fait avoir encore plus soif de découverte, et que peut-être dans mon malheur, entre guillemets, certains ne seront pas d'accord avec moi, j'ai pu vivre des choses que je n'aurais jamais vécues en tant que bienvoyante. Des rencontres de personnalités, vraiment rencontres personnelles, en tête à tête ou avec des gens riches. Et peut-être que mon chemin n'aurait pas croisé le leur si je n'avais pas eu ce problème visuel. Le mot de la fin, ce serait pour bien vivre ensemble. Acceptons la différence, n'ayons pas peur de l'autre, allons vers l'autre. N'hésitons pas. Le ridicule n'a jamais tué, même si vous vous faites envoyer paître. Tant pis pour la personne qui vous envoie paître. Mais qui ne tente rien n'a rien. Et je pense que beaucoup de personnes en situation de handicap ont des tas de choses à vous faire découvrir, à vous raconter. Moi, on me dit toujours, tu devrais écrire un roman. Mais donc, le message à faire passer, c'est acceptons la différence, n'ayons pas peur de nos voisins. Que les choses bougent à Saint-Sébastien, bougent dans le sens de l'acceptation des règles et de l'autre aussi, des règles de vie.
Voix enchantée, une production réalisée à l'occasion des 20 ans de la loi pour l'égalité des droits et des chances des personnes handicapées, avec le soutien de la ville de Saint-Sébastien-sur-Loire et grâce à l'engagement précieux des Sébastianaises et des Sébastianais.